Bonjour à tous. Pour la prédication de ce matin, je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, chapitre 12. On lira à partir du verset 6 jusqu'au chapitre 13, verset 4. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest de Haï. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Négoé. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme ils étaient sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai : Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « c'est sa femme » et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut les brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit : Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le Négoé avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négoé jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Alors, je pense que dans notre vie chrétienne, on a tous déjà eu notre foi éprouvée de différentes manières. Peut-être des épreuves pas très importantes où il n'y a pas fallu faire de grands pas de foi, et puis des épreuves parfois voilà, qui nous ont demandé de faire certains choix et tout, et parfois on sait bien qu'on a le choix entre faire le pas de foi et puis prendre d'autres solutions. Alors quand votre foi a été éprouvée, je vais juste vous poser la question, c'est comment vous avez réagi? Quelles ont été vos premières pensées? On se rappelle que les disciples, lorsqu'ils sont dans la barque avec Jésus et qu'il y a la tempête un peu là qui arrive et tout, voilà, leur foi en Jésus est mise en épreuve et la première réaction, on va s'en sortir tout seul et tout, et après ils ont crié à Jésus, et ce qui m'a toujours étonné dans ce texte, c'est que après Jésus va leur dire « Mais où est votre foi ?» Alors que ces gens, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, hein, vous voyez l'épisode, il sort de la barque, c'est un truc extraordinaire, les autres disciples qui étaient là devaient dire, oh, dis donc, regarde-le, la foi qu'il a quand même. Et il commence à marcher sur l'eau comme ça, et puis, voyant le vent, les vagues et tout, il s'enfonce tout doucement. Hein, parce que vous avez vu, à la piscine, en général, on plonge, on descend pas doucement, on descend vite. Mais là, c'est doucement, il commence à s'enfoncer et il crie au Seigneur. Et le Seigneur a encore cette parole qui peut surprendre homme de peu de foi. Il
Seigneur me montrer toute ma vie depuis que je suis converti, combien de fois devrait-il me dire, Jean-Pierre, regarde là, comme tu as manqué de foi. Alors dans notre histoire, notre patriarche, dans une certaine situation, lui aussi, pas manqué de foi. Et quelque part, c'est encourageant pour nous, parce qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu, le seul dans l'Écriture qui est appelé l'ami de Dieu. Et pourtant, dans cette situation, il va nous montrer finalement le peu de foi qu'il a eu. Il va nous montrer qu'il est un homme de la même nature que nous. Et il va prendre, lui, trois décisions dans cette histoire, deux mauvaises et une bonne. La première décision, c'est de quitter la terre promise. La deuxième décision est celle de mentir, mais la troisième décision, c'est celle de retourner à Bethel. Les deux premières décisions, j'ai noté qu'elles sont dictées par la peur. En ce moment, je suis un peu sensible au sujet de la peur, donc c'est... Ah, il dit, tiens, deux mauvaises décisions dictées par la peur. Je vous rappelle aussi que ça ne sera pas la première fois qu'Abraham vivra ce genre d'épisode. Hein ? On sait que quelques années plus tard, la même chose va se reproduire. Alors la première décision, il quitte la terre promise. Maintenant, c'est vrai qu'une famine qui tombe sur un pays comme ça pouvait avoir de graves conséquences. Elle peut mettre la vie des personnes en danger, lui faire perdre aussi toutes ses richesses. Il fallait quand même bien nourrir ce troupeau, nourrir ses gens. Il est quand même le chef du clan, de la tribu, si vous voulez. C'est quand même à lui qu'incombe de prendre des bonnes décisions. Et c'est pourquoi Abraham va traverser donc le Négoé pour aller jusqu'en Égypte, où là, il dit, la nourriture et la terre abondent. Alors, il pense prendre la bonne décision. Et je suis sûr que nous tous ici, on aurait certainement pris la même décision. Merci pour votre silence. Mais je suis sûr qu'on pense tous aussi que c'était une sage décision. Ah, il a quand même une responsabilité importante, et sa tribu est dans un lieu où tombe la famine, et l'amène dans un lieu où ils vont pouvoir manger. Et, moi, je ne sais pas, en lisant le texte comme ça, si le texte s'arrête là, je me dis, moi, le Abraham, c'est un homme intelligent, responsable, capable de prendre une décision, de conduire son peuple... Seulement, j'ai lu l'ensemble de l'histoire et je me suis dit, même si je peux penser que n'importe qui aurait fait la même chose, il me semble qu'il y a un élément important à prendre en compte, c'est qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Il est celui qui a reçu les promesses. Celui à qui Dieu se révèle est parti, va commencer le plan de salut de l'humanité. Au verset 7, lorsqu'il est dans son pays, là, près de Bethel, là, il est dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. C'est à ta descendance. Donc Abraham ne va pas mourir parce qu'il y a une famine. C'est à ta descendance et tu es là, dans le pays que je vais leur donner. On se rappelle que quand il reçoit cette révélation extraordinaire, il construit un autel, il invoque l'Éternel, certainement pour adresser des prières de reconnaissance à Dieu. Peut-être qu'il a fait une prière semblable à celle de David, mais qui suis-je et qui est ma famille pour recevoir de telles révélations? Mais je me dis que notre cher Abraham, avant d'entreprendre un long voyage, à peu près 400 km pour aller rejoindre l'Égypte, là, en coupant par le désert, la bonne réaction aurait certainement été d'invoquer l'Éternel pour connaître sa volonté, d'expliquer la situation à Dieu. « Ah, Éternel, tu m'as promis une descendance, tu m'as promis ce pays, tout ça, et regarde, il y a la famine qui arrive, alors est-ce que je dois aller en Égypte, tout ça, comment tu vas pourvoir à mes besoins, et si les puits viennent à manquer d'eau, regarde, les gens vont mourir. » Je pense que ce long voyage que Abraham va faire jusqu'en Égypte, l'aventure en plus qu'il va y vivre là-bas, je pense que ce n'était pas le plan de Dieu qu'il s'en aille. Je pense que le plan de Dieu était d'abord qu'il le consulte pour savoir ce qu'il allait faire et Dieu pouvait pourvoir à ses besoins dans ce pays. Vous savez, Abraham après va donc revenir à Bethel, et il sera dit donc, verset 3, il se rendit par étapes du Négoé jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Ah, je me dis aussi que pour nous aujourd'hui, cette histoire peut encore nous parler. Et que parfois dans nos vies, des décisions prises d'une manière un peu précipitée, sans avoir consulté vraiment le Seigneur, peuvent avoir des conséquences petites ou grandes. Et ce que je note quand même important, c'est que je suis sûr qu'Abraham, quand il a pris la décision de partir en Égypte, il était convaincu qu'il prenait la bonne décision. Quand je pense à Abraham, à d'autres personnages de la Bible ou disciples qui ont suivi Jésus, je me dis parfois que la peur peut motiver nos décisions. Parfois la peur de perdre notre sécurité, peut-être nos privilèges ou par rapport à notre situation sociale, la peur de perdre notre confort ou notre richesse peuvent nous faire prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures. Et je crois que ça devrait être une sorte de réflexe que, quelle que soit l'épreuve par laquelle on passe, apprendre à consulter notre Dieu pour savoir sur quel chemin, Seigneur, tu veux nous faire marcher. J'ai une parole que j'aimerais dire, touchera peut-être quelqu'un en particulier, mais la foi n'implique pas de tout comprendre. Et c'est quand on veut tout comprendre que parfois le doute s'installe dans notre foi. J'ai vu par expérience, que ce soit dans ma vie ou dans l'étude de ce texte, que parfois, même avec de bonnes intentions, on peut se tromper. Parce qu'on a oublié avant tout de consulter l'Éternel pour recevoir sa sagesse, son discernement. Et n'oublions pas que nos choix ont toujours des conséquences. Ça m'a rappelé l'histoire de Josué. On pourrait le comparer à un général d'armée, il a la tête du peuple d'Israël, et celui qui va faire entrer le peuple d'Israël dans le pays promis en livrant des tas de batailles, va aller de victoire en victoire, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà que des gens arrivent se faisant passer pour des habitants d'un pays très lointain, on connaît les Gabaonites là, et par la ruse ils vont tromper Josué. On va faire croire, oui, on vient d'un pays lointain, mais on a entendu ta réputation et tout ce qu'Israël fait, comment Dieu vous a délivré d'Égypte, tout ça. Ils vont ruser, ils vont tromper Josué. Mais un petit verset dans cette histoire qui est important, il est dit, en parlant de Josué et des chefs d'Israël, ils ne consultèrent pas l'Éternel. Mais il y aura des conséquences. La première conséquence, on la voit dans le texte, il est dit que le peuple a commencé à murmurer contre les chefs. Et la deuxième conséquence, ils vont se coltiner le peuple pendant combien de temps? Même s'ils vont asservir ce peuple à des corvées d'eau et corvées de bois, en tout cas, ils vont se coltiner le peuple pendant bien des années et ce peuple ne ramènera pas que du bien. La deuxième décision d'Abraham est celle de mentir. Mais ce qui est embêtant là, c'est non seulement il va mentir, mais il entraîne sa femme et l'oblige à mentir. Et je me suis dit, dans le contexte, est-ce qu'il n'avait pas aussi donné des consignes aux serviteurs? Parce que si les gens d'Égypte disent, dis donc, la femme là-bas est bien gaulée, tout ça, et puis tu dis, ah, attends, ne touche pas, c'est la femme de notre patron là. Mais donc voilà, peut-être qu'il a dit, les gars, déconnez pas, vous direz que c'est ma sœur et tout. En tout cas, déjà dans son mensonge au départ, il entraîne au moins sur sa femme et certainement ses serviteurs. Et vous savez, quand on commence tout doucement à marcher hors des voies de Dieu, bah, assez souvent on commence à s'enfoncer de plus en plus. Notre patriarche Abraham, le grand Abraham, n'a pas fait preuve ici d'un grand courage. Moi, je dirais que dans cette situation, il aura peut-être été un peu lâche. Par peur de mourir, il va mentir. Il va faire mentir sa femme et il va laisser sa femme aller dans le lit de Pharaon. Je fais une petite remarque, c'est que l'histoire nous apprend que dans ce texte, Abraham, c'est quand même... dans cette histoire, Abraham, c'est quand même religieux. Je fais juste la remarque. Hein. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose, messieurs. Temps de repose. Écoute la question. Vous allez prendre un instant pour demander à vos femmes si elles seraient d'accord de faire la même chose dans une situation semblable. Je suis évidemment pour la paix dans les couples. Hein. Allez-y. Femmes, les jeunes mariés, là. Hein? T'as dit, t'as pas intérêt à poser la question. Donc apparemment le pourcentage est zéro. Mais dis déjà que si Abraham n'était pas allé en Égypte, cet épisode malheureux de sa vie n'aurait pas eu lieu. Mais je me suis posé la question, hein, qu'on étudie les textes bibliques, j'essaye de mettre à la place des personnages comment ils pouvaient vivre, penser, voir, qu'est-ce qu'ils... Hein, j'essaye de plonger un peu. Bon, alors je sais que la culture était très différente de chez nous, mais je me demande quelle était l'ambiance dans le couple après les jours qui ont suivi le retour. Je me demande. Je me demande aussi qu'est-ce qu'ont pensé les serviteurs sur le chef du camp. Quels ont été leurs regards. En plus, je me dis que Abraham, le croyant, se fait reprendre par Pharaon, le païen. C'était pas spécialement glorieux pour lui, ça n'a pas dû être facile. Et je me dis, si Dieu n'était pas intervenu, parce qu'il me semble que le texte ne parle pas d'une prière d'Abraham qui invoque Dieu en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait tout ça ?» et qui se repent et tout. Il n'est pas parlé de parole, il n'y a aucune parole qui sort de la bouche de Sarah. Mais par contre, il y a un moment donné, Dieu intervient au cœur du problème, dans la famille de Pharaon, par des fléaux, il ne nous a pas dit c'est quoi, mais c'est Dieu lui-même qui intervient pour sortir son serviteur de là. Ça, c'est vraiment la miséricorde de Dieu. Il vient sortir son serviteur de là. Et je me dis que si Dieu n'était pas intervenu, que serait devenue la promesse? Comment la promesse de Dieu aurait-elle pu s'accomplir? Et je me suis posé une question, peut-être que certains diront qu'il faut être aussi tordu que Jean-Pierre pour chercher des questions comme ça, mais l'histoire d'Abraham ne s'arrête pas là, hein, on la connaît. Et je me suis dit, quelle importance a eu cet épisode dans la décision du patriarche d'obéir à sa femme quand elle lui a dit d'aller vers sa servante Agar pour avoir un enfant. Hein, je suis content de voir que tu fais mieux. Elle est la trouvée celle-là. Là, je suis fier de moi, tiens. Moi, j'imagine Abraham dire à sa femme, « Non, mais tu crois que c'est une bonne idée que j'ai une relation sexuelle avec Agar Est-ce qu'on ne devrait pas faire confiance en l'Éternel, notre Dieu ?» Et toi, quand tu m'as envoyé dans le lit de Pharaon, tu penses que c'était une bonne idée? Allez, Abraham, rase-toi et va voir Agar. Vous voyez? Comme parfois, je suis sûr qu'une chose comme ça, ça a laissé des traces. Et c'est une question que je pose. Quelle influence que ça a eu ce jour-là sur la décision d'Abraham? Parce que le jour-là qu'il a décidé d'aller avec Agar, on a encore quand même les fruits aujourd'hui, hein, je ne vous en parle pas. Mais moi je pense qu'aujourd'hui encore, hein, vraiment nos peurs, nos manques de foi peuvent nous amener parfois à adopter des attitudes qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu et qui parfois entraînent aussi les autres. Bien sûr, on pourrait dire, oui, mais Abraham était responsable d'un clan, il avait reçu des promesses, donc ça s'adresse peut-être plus aux responsables d'église, des d'œuvres ou des responsables de mission, je ne sais pas quoi, parce qu'eux, ils ont des responsabilités, et s'ils prennent une mauvaise décision, ben, ils entraînent forcément les autres avec eux. Oui, c'est vrai. D'où la preuve qu'il faut prier pour ces gens. Mais n'oublions pas qu'à notre niveau, chacun d'entre nous, eh ben, nos décisions, notre véhicule personnel, parce que j'imagine, moi, les gens qui ont vu cette histoire en Égypte, qui ont connu ça lorsqu'on leur a parlé 10 ans après d'Abraham le croyant. Ah oui, on s'en rappelle d'Abraham, le coup avec sa femme, tout ça, là. Vous savez, hein, les mauvaises choses, nous, les hommes, on sait, hein, les répondre. Abraham va prendre une troisième décision, la plus belle qu'il va prendre dans cet épisode, le retour à Bethel. Après ce que j'ai appelé cette triste aventure, il revient à la case départ, il retrouve l'autel qu'il a construit, et il est dit, il fit appel au nom de l'Éternel. Comme il est dit, la première fois qu'il construit cet autel, il fait appel au nom de l'Éternel, il consulte l'Éternel, et là, il refait appel au nom de l'Éternel. Il n'a pas eu peur de revenir à Dieu. Il n'a pas eu crainte. C'est quand même déjà une bonne chose. Il montre que là, par contre, dans cette décision, il y a un certain courage. Il revient à Dieu, il va invoquer Dieu. Alors, qui sait que là, il vient de se passer combien de temps, je ne sais pas, c'est de compte en semaine ou en mois, mais enfin, une période de sa vie qu'il aimerait peut-être effacer. Mais il fait appel au nom de l'Éternel. Je me suis demandé quelles ont pu être les pensées du patriarche sur le chemin du retour. Hein? Il y a à peu près 400 km avec le chameau, tout ça, ça a pris quand même du temps. Quelles ont été ses pensées? Est-ce qu'on peut parler d'un chemin de repentance? En tout cas, le terme n'est pas dans le texte, mais est-ce qu'on peut l'imaginer puisqu'il revient après à cet autel? Est-ce qu'il avait une attitude intérieure semblable à celle du fils prodigue qui prépare sa prière, qui prépare un peu, voilà, comment je vais aborder mon père, ce que je vais lui dire? Est-ce que vraiment il est rentré en lui-même avant de repartir? Et lorsqu'il arrive à l'hôtel, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il a pu dire dans sa prière? Comment il s'est adressé à son Dieu? Et puis surtout, comment il sentait intérieurement en revenant à Dieu? Est-ce qu'il disait, je vais être accepté pleinement par Dieu, il va me pardonner totalement, je vais pouvoir prendre un nouveau départ? Ou est-ce qu'il était là avec un cœur repentant, s'attendant à la grâce de Dieu, sans savoir vraiment ce qui allait se passer? En tout cas, une chose est sûre, il a eu le bon réflexe, celui de revenir à cet autel et d'invoquer son Dieu. Moi, je crois que pour nous aujourd'hui, c'est important qu'on ait une bonne image de qui est notre Dieu pour pas hésiter à revenir à lui quand on a emprunté un mauvais chemin. Et on peut tous parfois éprouver une certaine honte quand on a mis le pied sur le mauvais chemin, qu'on s'est engagé dans une mauvaise situation, qu'on a fait des mauvais choix. On peut tous éprouver une tristesse en nous, des fois, en regardant les choix qu'on a fait, les conséquences qu'il y a eu. Mais je dirais que cette honte ne nous empêche pas de revenir à notre Dieu. Il a le prouve encore, il est plein de bonté et de miséricorde. Et pourtant, Abraham, des années après, va encore faire vraiment des grosses bêtises. Et Dieu ne lui enlèvera pas sa bénédiction, il ne lui enlèvera pas ses promesses. L'apôtre Paul nous dit que Dieu ne se repent pas de ses appels et de ses dons. Il est bon de revenir à Dieu parce que lui, il sait que nous ne sommes que cendres et poussière. Pour conclure, j'aimerais dire que le Seigneur est intervenu en faveur d'Abraham et de Sarah quand ils étaient en Égypte. C'est Dieu lui-même qui est intervenu. Il n'a pas reproché à Abraham de repartir avec les richesses acquises en Égypte, ce qui peut nous étonner. Et même si ce n'est pas dit textuellement, il a pardonné à Abraham, il ne lui a pas retiré sa promesse, il a continué à marcher et à faire progresser son plan de salut. Nous faisons tous des erreurs de jugement, nous faisons tous parfois des mauvais choix, mais la grâce de notre Seigneur les surpasse largement. Quiconque revient à lui trouvera un père qui est prêt à pardonner et à nous faire prendre un nouveau départ. Amen.